L'école d'ambulanciers a fêté ses nouveaux diplômés.
Samedi dernier, le complexe sportif de Sisteron a accueilli un événement d'envergure avec la remise des diplômes de l'école d'ambulanciers 0405. Pour rappel, c'est à la fin de l'année 2009 que le Greta des Alpes de Haute-Provence s'est vu autoriser l'ouverture d'un institut de formation d'ambulanciers de Haute-Provence sur le site de Sisteron. En février 2010 avait lieu la première session de formation. Depuis, le Greta a organisé 11 sessions et 167 personnes ont obtenu leur diplôme d'État. Après une journée de mise en valeur du métier d'ambulancier, un gala a été proposé aux nombreux convives et officiels présents autour d'un buffet gastronomique dressé par les artisans et commerçants locaux. Invité d'honneur et parrain de la soirée, le pilote automobile Manu Guigou s'est dit honoré de partager un moment convivial avec des personnes motivées et investies d'une mission. Très remarquée également la présence du président de la Fédération nationale des artisans ambulanciers, Jean-Claude Maximiuk, que nous entendrons dans un instant dénoncer une situation paradoxale. De nombreux véhicules sont autorisés à emprunter les couloirs de bus, mais ce n'est toujours pas le cas des ambulances. Le président de la République a été interpellé à ce sujet et sa réponse tarde à venir. Sébastien Volpe, vice-président et responsable départemental de la Fédération, entouré d'une équipe compétente et valeureuse, a organisé cette remise des diplômes qui a enchanté toute l'assistance. Selon lui, le but reste défendre un métier encore trop méconnu. Frédéric Basile, instructeur, explique le déroulement de la formation. Ils répondent aux questions de Patrice Vernet.
Sébastien Volpe, on peut dire que pour une première, c'est plutôt une première réussie?
Ben, apparemment oui. En tous les cas, on s'est donné les moyens. Je remercie les partenaires qui ont joué le jeu. Et puis on a pu voir que ouais, c'était une bonne idée autour de cette école, autour de ce métier de la santé, où tout le monde en profite pour échanger maintenant, pour décompresser, et autour de ce cocktail dînatoire. Ouais. Ouais.
Valoriser le métier d'ambulancier, c'est ça l'objet de cette soirée et de cette école?
Tout à fait, tout à fait. Valoriser le métier, valoriser l'école, ce métier qui est méconnu, ce métier qui mérite reconnaissance, avec tous ces hommes et ces femmes qui sont tous les jours sur le terrain, sur les routes, et auprès de patients, de malades, de blessés ou de parturientes.
C'est important ce que vous dites, un métier méconnu. Pourtant, tout le monde, un jour ou un autre, en a besoin, ou quelqu'un de sa famille en aura besoin.
Tout à fait, on ne le souhaite pas, mais en tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que si un jour on en a besoin, eh bien, qu'on soit là, présent, avec le matériel qu'il faut, avec les connaissances qu'il faut pour porter secours au mieux possible, ou en tout cas réconforter toutes ces personnes-là qui en ont besoin.
Que pensez-vous de ces jeunes qui sont montés sur l'estrade ce soir et puis de ceux qui vont suivre aussi?
Eh bien, ils ont fait le parcours en tous les cas, les premières sélections. Il y en a même qui sont arrivés bien jusqu'au diplôme. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts pour parfaire cette formation et se professionnaliser encore auprès de patients et sur le terrain tout simplement. Et ceux qui vont suivre, eh bien, ils ont eu l'exemple ce soir, on va dire, de ses prédécesseurs. À eux d'en profiter, à eux de montrer qu'ils en sont capables et à eux de monter la profession par le haut.
Frédéric Basile, comment se déroule la formation?
Alors, elle se compose d'une partie théorique de 455 heures, décomposée en 8 modules, où on va aborder les gestes d'urgence, une approche clinique, l'hygiène, le brancardage, l'ergot, toutes les valeurs professionnelles. Et enfin, une deuxième partie composée de stages de 175 heures. On va faire un stage aux urgences de 2 semaines, un stage chez un ambulancier de 2 semaines et un stage d'une semaine dans une maison de retraite, un centre de convalescence ou de rééducation.
Une fois diplôme en poche, est-il un bon ambulancier ou doit-il parfaire sa formation sur le terrain?
Alors, il a toutes les armes en main pour être un bon ambulancier, mais le terrain va compléter sa formation, le mettre à l'aise dans toutes les situations. Effectivement, nous, on lui donne le bagage pour aborder toutes les situations, mais reste à les aborder. Et donc, il va parfaire sa formation en acquérant de l'expérience tout au long de sa carrière.
Quelle est la qualité première d'un ambulancier?
Je dirais du sang-froid, beaucoup d'empathie auprès des malades, un petit peu de recul pour pouvoir aborder les situations qui peuvent parfois être ou critiques ou psychologiquement déstabilisantes. Donc du sang-froid, du recul et de l'empathie envers le patient.
Sébastien Volpe disait dans la soirée, il faut également se munir d'une sorte de carapace. Ça ne doit pas toujours être évident. Hein.
Effectivement, la carapace ne doit pas empêcher de rentrer en contact avec le patient. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'empathie quand on prend en charge le patient, mais savoir laisser de côté quand on rentre, quand on a quitté le travail, savoir laisser de côté toute la détresse, tous les malheurs que l'on peut croiser tout au long de la journée.
Nos départements, 0405, sont pourvus de bons ambulanciers?
Je pense, beaucoup sont sortis de l'école, et les autres écoles forment aussi de très bons professionnels. Et je pense que la spécificité de nos deux départements, le fait que les transports doivent être longs, le fait qu'on n'ait pas des centres hospitaliers à tous les coins de rue comme en ville, fait que nos ambulanciers ont l'obligation d'être bons pour assurer un transport de qualité, une prise en charge sérieuse, sûre. Voilà. Donc il est important qu'ils soient bons et la plupart sont vraiment très bons.
Jean-Claude Maximiut, vous êtes responsable président de la Fédération nationale des artisans ambulanciers. Quel est le rôle de cette fédération vis-à-vis des délégations départementales ?
C'est de les soutenir, de les informer, de les défendre également, et puis surtout de reporter au niveau national les difficultés qu'ils rencontrent dans leur département auprès du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Vous remarquez que dans, en zone rurale, on peut avoir plus de difficultés qu'ailleurs ?
C'est pas du tout les mêmes difficultés, hein. Je m'en aperçois puisque je rencontre les ambulanciers partout en France, mais il est vrai que vous avez beaucoup plus de solidarité, par exemple, au niveau des transporteurs sanitaires, enfin des ambulanciers, en province et surtout en zone de montagne, il n'y a pas de problème, que dans les grandes agglomérations, c'est plutôt un travail individuel, et ce qui est regrettable à mes yeux.
Tout à l'heure, vous avez signalé, il me semble, ou soulevé un point fort, c'est que les ambulanciers ne peuvent pas emprunter les voies de bus, or que c'est aberrant, une dame pour aller faire ses courses, admettons, est prioritaire si elle prend un taxi, or que quelqu'un qui va à un rendez-vous important, lui, n'est pas prioritaire. Hallucinant, non ?
Non, c'est le problème, justement. Ce sont des démarches qu'on a menées depuis une dizaine d'années. Malheureusement, ils aboutissent mal et pas. On a un gros problème sur Paris, par exemple, sur les grandes agglomérations, où le préfet de police ne veut pas nous donner d'autorisation, où il nous donne une autorisation et 3 mois après, elle est caduque. Mais c'est inadmissible qu'un ambulancier, un VSL ou une ambulance, ne puisse circuler dans les voies réservées aux autobus. Il y a quand même des véhicules qui les empruntent, tels que les bennes à ordures, d'autres véhicules. C'est inadmissible, premièrement. Deuxièmement, vous avez un patient qui emprunte aujourd'hui un VSL. Il va aller à Marseille, il arrive dans Marseille, il va prendre la voie normale. Le lendemain, ce même patient va prendre un taxi, il va circuler dans les voies de taxi. Donc on ne pense pas suffisamment à l'état de santé du patient et je trouve qu'on devrait avoir le droit, en ambulance et en VSL, de circuler dans ces couloirs d'autobus. On a interrogé le président de la République qui lui-même nous a renvoyé un courrier et on s'est mis en relation avec le ministre de l'Intérieur. On a eu une réponse qui s'occupait de notre cas, du cas des ambulanciers, et là, dans un avenir très proche, on devrait être reçu au ministère de l'Intérieur.
Le covoiturage pourrait aussi emprunter ces voies-là, mais c'est quelque part du covoiturage s'il y a un ambulancier plus un patient.
Alors, c'est même plus grave que ça, puisque le covoiturage aura le droit d'emprunter des couloirs de bus, alors que nous, ambulanciers, avec des VSL, on nous incite à faire du covoiturage, mais on n'aura pas le droit aux couloirs de bus. Même en ayant 3 patients dans le VSL, on n'aura pas le droit aux couloirs de bus. Voilà, donc il y a une aberration complète. En plus de ça, pour les véhicules, pour tout, je ne comprends pas, pour la consommation d'énergie, pour tous les problèmes, je ne comprends pas. Personne ne comprend.
Bon, plus léger, cette soirée, elle est formidable.
Ah, soirée formidable. Sébastien fait partie des vice-présidents de la fédération et il fait un travail formidable. Lorsqu'il nous a contactés lors de la dernière réunion de bureau que nous avons eue, il nous a demandé s'il était possible de faire la prochaine réunion du comité directeur à Sisteron. Pensez bien qu'on a accepté, déjà moi personnellement je connais bien Sisteron, donc on a accepté, puis l'organisation aujourd'hui, lui et son épouse, tous ceux qui se sont investis, c'est grandiose, grandiose. J'ai rarement vu des choses comme ça, franchement.